Recevez-le comme si c'est moi. Écoutez ce qu'il dit comme, avec toute la confiance. Ne cherchez pas, il s'exprime comme ça. Non, fichez ça en l'air. Faites-lui totalement confiance. C'est un homme de Dieu que j'aime.
Amen. Merci Seigneur. On a un Dieu tout-puissant. Amen.
Amen.
C'est vrai que en entendant les conférences, les orateurs, comme notre frère Jean-Ton et notre frère Pierre Gilbert, c'est difficile de parler après des orateurs comme ça. Hein. Ça parle facilement, ça sort facilement, c'est extraordinaire. Hein. Alors c'est vrai que c'est difficile pour moi ce matin, mais je ne veux pas arriver à leur hauteur, ce n'est pas le but. Le but c'est d'apporter la parole de Dieu, de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et puis c'est vrai que quand on avait décidé de venir ici, j'ai dit « Seigneur, mais écoute, dis-moi ce qu'il faut que je leur apporte ce matin, parce que c'est vrai que des enseignements, vous en avez, ça, c'est clair, hein, ce n'est pas ce qui manque ici. Mais ce que je vais vous partager ce matin, c'est ce que je vis dans mon cœur tous les jours, c'est ce que je veux vivre. Et moi, j'aimerais vous apporter, c'est une expérience en fait, c'est de voir combien on a un Dieu qui est merveilleux, combien un Dieu qui est puissant, et dans ces temps difficiles, dans ces temps de la fin, on ne va pas vivre des choses difficiles, mais le chrétien doit vivre victorieux dans ce monde difficile. Parce qu'on a un Dieu qui a tout accompli sur la croix du calvaire et on ne doit pas marcher dans la faiblesse, on doit marcher de victoire en victoire. Et moi, c'est ce que moi je vous ai apporté ce matin, c'est que ce Jésus qui nous a sauvés va nous garder jusqu'au bout, jusqu'au jour de l'enlèvement. Et ça, c'est quelque chose de fantastique, c'est notre espérance, c'est mon espérance depuis 51 ans. J'ai 66 ans aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais il y a eu 4-5 jours, le 18 mai. Et puis, j'ai donné mon cœur à l'âge de 15 ans. Alors, ça fait 51 ans que j'annonce Jésus-Christ et que j'annonce l'enlèvement des chrétiens. Parce que c'est le but aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose de fantastique et je remercie le Seigneur. Alors, je suis heureux d'être parmi vous ce matin, de pouvoir partager cette parole que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et il y a un mois, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je leur apporte? Et le Seigneur m'a dit, apporte-le. Ma nature, connaître la nature de Dieu. La plupart d'entre nous, nous sommes approchés de Dieu sans connaître notre rédemption et sans savoir ce que Dieu avait réellement accompli pour nous. C'est bon de le savoir, comprendre le caractère de Dieu, l'importance et ses bienfaits. Tout ce que nous recevons de Dieu est proportionnel à la connaissance que nous avons de lui. Le connaître. Et vous savez, ça a toujours été un petit peu un problème pour moi. Dieu, je le percevais comme un peu un père fouettard, un homme difficile, quelqu'un de difficile. C'est vrai, j'ai eu de la peine avec Dieu. Et puis, en étudiant la parole de Dieu, j'ai pu comprendre le caractère de Dieu, comprendre vraiment ce qu'il était pour chacun d'entre nous. La vraie nature de Dieu. Le chrétien qui connaît réellement Dieu et qui comprend qu'il est un Père merveilleux, n'a aucune difficulté à croire en lui. Le connaître, c'est tellement important. Pourquoi ça marche si bien avec Pierre lorsqu'on fait nos conférences? Ça fait 20 ans qu'on tournique ensemble. C'est parce qu'on se connaît bien. C'est important de bien se connaître. Pourquoi je me sens à l'aise ici dans cette communauté où je viens maintenant depuis 4-5 fois? Parce qu'on se connaît bien. Je connais bien Michel, je connais bien toute l'équipe qui est autour de lui. Et il y a quelque chose qui passe. Il y a une relation qui s'établit. Et j'ai confiance en Michel, j'ai confiance en cette communauté. Et ça, c'est merveilleux. Alors nous devons parler de la parole de Dieu et avoir foi en lui. Avoir la foi en quelqu'un signifie développer une relation avec lui, au point que la connaissance de l'autre engendre une confiance totale. C'est pour ça que j'ai confiance en mon Dieu. Je ne crains pas ce qui vient, je ne crains pas ce qui va arriver demain, parce que j'ai totalement confiance en lui. Notre relation avec Dieu va nous donner la certitude que Dieu va agir dans n'importe quelle situation au mieux de nos intérêts. Est-ce que vous le croyez? Il faut le croire de tout son cœur. C'est une question de foi, cher bien-aimé. Bien connaître ce livre et ce Dieu merveilleux que personne ne pourra nous faire douter de sa bonté envers nous. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, ça me fortifie et je peux vous dire que chaque jour, je réalise la bonté de Dieu parce que Christ vit en moi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Le geste que je fais comme ça, c'est lui qui le conduit puisqu'il est en moi. Mes déplacements, c'est lui qui me conduit. puisqu'il est au travers de moi. Quand je parle à quelqu'un, je sais qu'il est là, que c'est lui qui parle au travers de moi. Et c'est bon de le savoir, parce que ce Jésus-Christ nous aide tous les jours dans la vie. Et vous savez, de réaliser que Christ est là-dedans, au travers de nous, c'est quelque chose de fantastique. Comment est-ce qu'on peut avoir la crainte du lendemain? C'est pas possible. Alors, il y a des chrétiens qui disent, mais avec tout ce qui s'en vient sous notre monde, qu'est-ce qu'on va manger demain? Moi, je suis à la retraite maintenant. Hein. Je vous dis sincèrement, je ne veux pas revenir sur le passé, mais j'ai perdu toute ma fortune, tout ce que j'avais, ma plus belle villa. J'ai tout perdu. Pierre le sait, je l'ai déjà dit. Hein. Je me suis retrouvé tout seul, sans rien, avec ma femme et mes deux filles. Et puis, des mains pour travailler. Et puis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis à la retraite, je n'ai plus d'employés. J'ai une retraite de 3400 francs par mois. Mais vous savez, comment on peut vivre avec 3400 francs par mois alors que je paye déjà 1500 francs d'assurance pour ma femme et pour moi, hein, et puis mon loyer 1000 francs. Alors, qu'est-ce qui reste pour vivre? Mais j'ai aucune crainte, chers amis. Aucune crainte. Je ne me fais pas de soucis, mais pas l'ombre d'un souci pour savoir ce que je vais manger demain. Et le gros problème des chrétiens à l'heure actuelle, c'est que il faut un compte en banque, il faut avoir 10 ou 20 000 francs ou 100 000 francs à la banque, parce qu'on ne sait pas qu'on puisse. Je ne me fais aucun souci parce que Dieu pourvoit à tous mes besoins. Et ça, c'est extraordinaire. Et chers amis, j'aimerais vous inculquer ça. N'ayez aucune crainte de ce qui s'en vient sous notre monde. On va vivre des choses difficiles, mais Christ est là. S'il est en vous, vous n'avez rien à craindre du lendemain. Parce que Dieu a tout prévu. Je le répète haut et fort, parce que c'est le gros problème aujourd'hui des chrétiens. Cherchez-vous, ce n'est pas un problème. Mais je vois dans nos églises, ce que les gens ont de la peine à donner, à sortir l'argent de leur compte, hein. C'est toujours ristrette. Hein. On a peur, alors que Dieu a tout accompli sur la croix pour nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. On va lire Jean 14, 9. Vous avez vos Bibles, j'espère. On va avoir beaucoup de lectures ce matin, parce que la parole de Dieu est tellement merveilleuse. Alors, Jean 14, verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père. » Jésus est la parole vivante qui marche sur terre. Et quand nous le voyons, nous voyons le Père. Quand nous voyons Jésus-Christ, nous voyons le Père. Quand nous voyons Dieu le Père, nous voyons Jésus-Christ. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils perçoivent Dieu à travers l'Ancien Testament au lieu de le percevoir à travers Jésus-Christ. C'est vrai, moi j'ai été comme ça souvent longtemps. On le voit dans l'Ancien Testament et on voit qu'il est dur avec le peuple. Mais l'Ancien Testament, c'est du passé. Il faut le voir maintenant à travers Jésus-Christ parce que c'est cette nouvelle alliance qui nous fait comprendre quel est réellement ce Dieu Tout-Puissant. Souvent, ils n'arrivent pas à comprendre qui il est vraiment. Sous l'Ancien Testament, Dieu s'y prenait d'une manière différente vis-à-vis de l'être humain et du péché. Jésus apporte la vraie révélation du Père dans Hébreu. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. C'est merveilleux. On peut se demander, eh bien, si Jésus représente la vraie nature de Dieu, pourquoi Dieu agissait-il ainsi sous l'Ancien Testament? Je me suis souvent posé la question. Romains 5, 13 nous montre qu'avant la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché ne pouvait pas être imputé. Le mot « imputé » signifie « mettre sur votre compte ». En fait, le peuple ne rendait pas compte de ses péchés tant que Dieu n'avait pas donné la loi à Moïse. Les gens n'étaient pas conscients de leurs péchés. Il a fallu que la loi vienne, il a fallu que Dieu apporte, que Moïse apporte cette loi pour que le péché, pour que l'homme se rende compte qu'il était pécheur. Dieu est saint, il est juste. Dieu est saint et je sais que l'homme est un pécheur. Mais l'amour de Dieu n'a jamais expulsé l'homme de sa présence. Ça, c'est extraordinaire. Jusqu'à l'époque de Moïse, moment où la loi fut donnée, le péché entra dans le monde quand Adam et Ève succombèrent à la tentation. Regardons de plus près comment Dieu s'y est pris avec eux. Genèse 3, 22, on a beaucoup lu hier dans Genèse, on a parlé d'Adam et Ève. Genèse 3, versets 22 et 23. Et l'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie, et qu'il mange et ne vive à toujours. » Et l'Éternel Dieu fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Adam et Ève ont été chassés du jardin. Dieu ne voulait pas qu'ils mangent de l'arbre de vie, sinon l'humanité aurait vécu à jamais dans son péché. S'ils ne l'avaient pas chassé, j'avais la peine à comprendre pourquoi est-ce qu'il les a sachés. Il aurait pu leur dire, mais restez là, je suis avec vous. Non, s'ils étaient restés dans le jardin d'Éden, eh bien, on aurait pu vivre dans le jardin d'Éden, c'est clair, mais on aurait eu toujours ce sentiment de péché, de culpabilité que le péché a amené. Bien qu'Adam et Ève péchèrent contre Dieu, Dieu ne les chassa pas de sa présence. La présence de Dieu alla vers eux et leurs descendants hors du jardin. Il nous est dit que Dieu parla encore avec eux dans la fraîcheur du soir. Il ne les a pas abandonnés, chers amis. Il a été avec eux. Et je pense que c'est par amour que Dieu les a chassés du jardin. Il ne voulait pas qu'ils prennent de l'arbre de vie et soient condamnés à vivre à jamais dans un corps corrompu par le péché. Le péché donna à Satan la possibilité d'introduire tout le mal et la malédiction dans la vie de l'homme. Dans le chapitre 4 de la Genèse, nous voyons que Dieu continua à communier avec l'être humain. Adam, après la chute, vécut encore 930 ans. Mais pendant ces 930 ans, Dieu était là, parlait encore avec eux. C'est extraordinaire, l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père. Adam ne connaissait pas le divorce, le péché. Ils mirent du temps à évaluer les effets dévastateurs. Parce que Dieu n'impute pas aux hommes leur péché. N'imputa pas aux hommes leur péché. Le péché ne fut pas seulement une transgression contre Dieu, il ouvrit aussi une porte à Satan dans la vie des hommes. Et c'est ça le drame qui est arrivé. Avant la loi, le péché n'avait pas affecté la communion entre Dieu et l'homme. Puisque Dieu ne l'avait pas imputé aux hommes, la parole de Dieu enseigne que Satan a un accès direct dans nos vies lorsque nous péchons. Et ça, c'est lorsque nous péchons, c'est une porte ouverte à Satan. Dieu entre dans nos vies. Le but de Satan est de détruire la race humaine physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. Mais merci que Dieu a envoyé son Fils sur la croix pour mourir pour nous et payer la dette. La conséquence du péché provoqua diminution de l'espérance de vie. La nudité, on voit dans Genèse 2, 25, on va le lire, parce que c'est important. Genèse 2, 25. Or, Adam et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, ils n'étaient pratiquement pas conscients de leur nudité. C'est leur perception qui changea soudain. Ils surent qu'ils étaient nus. Et c'est ce qui a tout changé. Genèse 3, 9, 11, Dieu les avait créés ainsi et il savait aussi qu'ils n'en avaient aucune conscience. Alors à nos yeux, ce n'est pas une raison valable pour se cacher de Dieu. Pourtant, d'après les Écritures, c'est ce qui les poussa à se cacher loin de Dieu. Je pense que leur nudité devint évidente parce qu'ils remarquèrent que Dieu ne l'était pas. Aucune référence n'existe sur la nudité de Dieu et des anges. Qu'une référence dans la parole de Dieu, ils sont toujours vêtus. Apocalypse 19, verset 8 dit que nous porterons une robe de justice, chers amis. Cette pleine conscience d'eux-mêmes rendit Adam et Ève totalement vulnérables au mal et, à mon avis, la peur du rejet fut la conséquence immédiate. Ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont eu honte, peur, le rejet s'est installé et voilà la conséquence du péché. Pourquoi y a-t-il une telle pression dans la société aujourd'hui? Parce que tout le monde veut ressembler à tout le monde. C'est vrai. Parce qu'on veut être accepté. Dieu nous a créés pour être acceptés, chers amis. Pour être aimés tels que nous sommes. Pas créés pour être rejetés. Personne n'aime le rejet parce qu'il blesse et il fait mal. C'est vrai que lorsqu'on est rejeté par quelqu'un, dans la société, dans notre travail, ça nous est déjà arrivé d'être rejeté, ça fait mal. Ça fait vraiment très très mal. Et quatrièmement, la séduction, Hébreux 3, verset 13 nous le dit. Allez dans Hébreux. Hébreux 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour pendant qu'il est dit, aujourd'hui, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcissent par la séduction du péché. Si on est là ce matin, chers amis, c'est pour s'entretenir, s'exhorter les uns les autres, parce qu'on sait que le péché est quelque chose de terrible et nous séduit. Ils étaient tellement éloignés de Dieu qu'ils arrivèrent à justifier toutes sortes de péchés. Regardons la bonté de Dieu envers Caïn. Caïn qui tua, Dieu le protégea au lieu de manifester sa colère. C'était pas un signe d'approbation de la part de Dieu, c'est une preuve de la bonté, de l'amour de Dieu. Il a eu de la bonté et de l'amour de Dieu envers Adam et Ève et vers Caïn. L'être humain méritait le jugement, mais Dieu l'attire à lui pour lui témoigner de l'amour et de la miséricorde. Alors si tu te sens mal aimé ce matin, Dieu t'aime tellement. Dieu veut te partager ce qu'il a donné à l'être humain. Dieu veut partager avec toi l'amour, la miséricorde. Parce que Dieu nous aime, Dieu a tout accompli. C'est un Dieu merveilleux. Le péché avait tellement proliféré sur la face de la terre que la Bible dit dans Genèse 6:6, Jésus... On va lire Genèse 6:6. Alors, Genèse. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. Ça devait être terrible pour lui, pour Dieu. Vous imaginez, hein, cette créature qui pêche, et puis là... Tout était corrompu et ça a dû être terrible pour Dieu. Mais Jésus devait naître de ceux qui ont un cœur pur pour Dieu et qui permettraient à l'Esprit de Dieu d'œuvrer à travers eux. Je pense que si Dieu n'était pas intervenu par un déluge, il n'y aurait eu aucune femme vierge pour donner naissance à Jésus. Il a fallu qu'il envoie tout ça dans le déluge parce qu'il y avait tellement une perversion dans le péché qu'il a dû trouver 8 personnes qui étaient justes. Et puis c'est là que est sorti notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant la période qui s'étendit d'Adam à Noé, Dieu fit preuve d'une grande modération dans la façon de traiter le péché, parce qu'il ne voulait pas que les gens réalisent leur degré de corruption et de perversité. C'était terrible. Et on voit encore à l'heure actuelle comme le péché est déchaîné dans le monde, les gens sont pris par l'ennemi, sont pris par Satan parce qu'il sait très bien que son heure approche et merci pour pour cette grâce que Dieu nous a donnée de pouvoir accepter ce Jésus et qui nous libère de tout péché, qui nous libère de la puissance du malin. On a tellement besoin de Jésus-Christ dans nos vies, on a tellement besoin aujourd'hui de cette puissance pour nous garder de l'ennemi et de ce qui veut détruire le monde. Celui qui comprend vraiment la bonté de Dieu court directement vers lui quand il manque le coche. Chers amis, si vous avez manqué le coche, ne regardez pas vous-même, mais courez vers Jésus-Christ. Ça arrive à tout le monde de tomber. Hein? Alors ce qu'on fait machinalement, on dit « Oh ben voilà, Dieu me juge, j'ai honte, j'ai peur. » Non, courez vers Dieu, courez vers lui, parce que lui, il va vous accueillir avec les bras ouverts. Et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est ce qui touche mon cœur. Mais malheureusement, on a tendance à fuir loin de Dieu. Lorsque les problèmes surgissent, on évite Dieu parce que l'on se sent coupable et condamné. On sait qu'on a enfreint la loi divine. La loi condamne et donne la puissance au péché. La loi, elle condamne et donne la puissance au péché. L'ancienne alliance ne pouvait rien rendre parfait. Aussi Dieu intervient avec quelque chose de mieux, une nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus. On va lire Hébreux 8, 6, 7. C'est tellement beau. Hébreux 8, 6, 7. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente et qui a été établie sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu lieu d'en établir une seconde. C'est merveilleux cette alliance que Dieu a créée pour nous. Vous rendez compte de la chance qu'on a. On est pécheurs. Mais par l'alliance du sang de Jésus-Christ, eh ben, tout est effacé. La facture a été payée. On n'a pas à regarder notre vie antérieure, mais on va de l'avant. Et même si on pêche, on doit revenir vers le Seigneur. Il sait très bien que notre nature est pécheresse, mais Dieu est tout puissant pour nous relever la tête. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On va dire 8-13 aussi. En parlant d'une alliance nouvelle, il déclare ancienne la première. Or, ce qui est devenu ancien et a vieilli est prêt de disparaître. Chers amis, ça a disparu, c'est extraordinaire. Ne regardons pas au passé. Ne regardons pas la loi. On vit sous la grâce aujourd'hui. C'est quelque chose de fantastique, de merveilleux. Hébreux 7, 22 nous dit aussi, Jésus est ainsi devenu garant d'une alliance d'autant plus excellente. Une alliance d'autant plus excellente. Quel privilège on a. Quelle chance on a. C'est quelque chose de fantastique, de merveilleux. Toutefois, la condamnation ne doit pas être confondue avec la conviction du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la puissance de conviction du Saint-Esprit. C'est Jésus qui nous convient lorsqu'on fait une faute. Il ne nous accable pas, mais lui, là, tu fais erreur. Attention dans le chemin où tu vas. C'est moi qui te conduis, c'est lui qui nous convainc de péché. C'est le Saint-Esprit, c'est pas la loi. On est sous la grâce. Est-ce qu'on réalise pleinement ce qu'est la grâce? Je ne pense pas qu'on le réalise, chers amis. Tout a été payé à la croix du calvaire. Ce n'est pas parce que tu as péché hier, ce n'est pas parce que tu es tombé que Dieu va te rejeter. Non, c'est qu'une question de grâce. Il va te prendre dans ses bras d'amour et il va t'aimer. Il te dit, viens mon frère. C'est moi qui ai tout accompli à la croix du calvaire. Alors approche-toi de moi. Au lieu de se mettre dans son coin et puis de se lamenter sur ce qu'on a fait, allez vers Jésus-Christ, ce Dieu Tout-Puissant, parce que c'est lui qui change nos vies, c'est lui qui donne la conviction par le Saint-Esprit. Il est en nous et nous fait savoir immédiatement lorsque nous ne sommes pas en accord avec sa volonté. Lorsqu'on marche avec lui, automatiquement on sait si on dévie, si on n'est pas sur le droit chemin, automatiquement. On parle dans nos églises de la sanctification, de pardon des péchés, je ne dis pas. C'est normal, il faut. Mais Dieu, quand Dieu vit dans nos vies, on n'a pas besoin de se focaliser tout le temps là-dessus. On marche avec lui, Dieu purifie notre corps. Dieu purifie notre cœur parce qu'on est en lui, il est en nous, chers amis. Et ça, c'est quelque chose de fort, de puissant. Et c'est ce qui nous permet de vaincre les problèmes de la vie. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Dieu veut qu'on aille de l'avant. Et vous savez, on doit être des témoins pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Si on a ces chrétiens qui se la mettent sans arrêt. Moi, on me dit toujours, Arthur, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir toujours le sourire. Chaque fois qu'on te voit, tu as une bonne parole. Mais c'est parce que c'est Christ qui vient en moi. Moi, je ne peux pas par moi-même. Je n'y arrive pas par moi-même. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu a changé ma vie. Il a mis une semence nouvelle dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on voit même que Dieu démonta sa grâce envers Adam et Ève. Puisqu'il a parlé pendant 930 ans avec eux, il était à côté d'eux, il était avec eux. Il ne les a pas rejetés. La bonté de l'Éternel est quand, pendant longtemps après l'expulsion du jardin d'Éden, il cherche à les conduire à la repentance par le seul moyen de sa bonté. Et il pointe déjà ainsi vers le Sauveur à venir. Ça, c'est merveilleux. Ce don divin de la vie éternelle. Romains 10, 9, 10 nous en parle. Romains, chapitre 10. Elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car on croit du cœur pour obtenir la justice et l'on fait confession de la bouche pour le salut. C'est pas merveilleux, hein? Qu'est-ce que c'est beau? Car on croit du cœur pour obtenir la justice. Si vous croyez que Dieu est dans vos vies, que Dieu va vous conduire, il y a une justice pour vous. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est le don divin de la vie éternelle. Jésus inaugure un âge nouveau. Les hommes et les femmes et les enfants peuvent non seulement avoir la paix avec Dieu, mais le connaître personnellement. Et c'est ce qu'il y a de fantastique. Je désire tellement connaître encore Dieu plus personnellement. Et c'est ce qui manque actuellement chez le chrétien. C'est cette relation. J'avais parlé sur le lieu secret là, il y a une année ou deux ans. Mais développer la relation avec Dieu, c'est quelque chose. C'est ce qu'il y a de plus beau. Moi, j'aimerais tellement la développer encore plus. Parce qu'il est là, il est avec nous, il veut nous aider, il veut marcher avec nous. Il a donné sa vie pour nous. Quand on réalise le sacrifice à la croix du calvaire, c'est quelque chose de fantastique. Heureusement qu'on est né sous la nouvelle alliance, puis qu'on n'est pas né dans l'Ancien Testament. C'est quelque chose de beau. Vous vous rendez compte, on risque de ne pas passer par la mort, on va être enlevé parce que Dieu a tout accompli sur la croix du calvaire. Mais quel cadeau! Moi, j'en ai rien d'avoir perdu ma maison qui valait 3,5 millions. Ça m'est complètement égal. Vous savez, tous les jours, j'habite en face maintenant, je descends et je la vois, cette belle maison. C'est une belle maison. Il y a 2500 mètres carrés de terrain. Il y a des arbres qui sont centenaires. J'avais une belle piscine. Et chaque fois que je descends les escaliers, j'habite un petit duplex. Là, on a hérité la maison de mes beaux-parents. Il y a 3 appartements. On s'est fait un petit duplex. Chaque fois que je descends, je vois la maison en face où j'habitais. J'étais esclave. Parce que c'est une maison qui... C'était tout pour moi. C'était mon deuxième pilier. C'était ma rente. J'avais tout là. Et puis... J'y passais un temps fou, mais aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir perdu cette maison parce que je suis dans mon lieu secret, je suis avec Jésus-Christ et je passe du temps avec lui. Alors que je serais dans ma maison, je serais sans arrêt, j'étais un maniaque des plates-bandes, j'aimais que tout soit bien. Quand les gens arrivaient, j'aimais que ça soit propre. Pierre, il rigole parce qu'il sait bien, il connaît mon cœur. Mais depuis que j'ai tout perdu, j'ai retrouvé quelque chose d'extraordinaire avec Jésus-Christ. Et il m'a préparé une plus belle maison qui est là-haut que celle que j'avais ici. Chers amis, tout ce qu'on a ici, ça va disparaître. Ça veut dire, ne faites-vous pas de soucis, tout va disparaître. Mais regardez à Jésus-Christ, marchez avec lui. C'est tellement beau, c'est tellement fort. Vous êtes une nouvelle créature. Dieu nous a insufflé sa vie. L'esprit de l'homme est la seule partie de lui qui soit né de Dieu et d'esprit, né de nouveau. L'esprit ne pêche pas. La semence de Dieu est en nous, chers amis. Depuis que nous sommes nés de nouveau, nous ne péchons pas avec notre esprit, mais c'est au niveau de la chair que nous sommes séduits. Si nos émotions et nos pensées y pêchent, c'est par choix. C'est par choix. Vous êtes d'accord? Notre esprit ne participe pas au péché. Tout ce qui concerne le croyant de la nouvelle alliance se trouve au verset 14 de Romains. Et on va le lire parce que c'est tellement beau. Romains 6. Romains 6, verset 14. Car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. On est sous la grâce, c'est pas beau? On est sous la grâce. Laissez-vous pas condamner par l'ennemi, parce que lui, il fait que ça. Aujourd'hui, il fait que de nous condamner. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Il y a des manquements ici. Il n'arrête pas de nous condamner. Mais on est sous la grâce, parce que Dieu a tout accompli. Il faut le savoir que nous sommes sous la grâce. C'est quelque chose de fantastique. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. Je fais ouvrir vos bibles ce matin, mais c'est tellement important de lire la parole de Dieu, parce que c'est une confirmation. Jean 1, verset 17. Et le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Comment savoir si on fait la volonté de Dieu? Vous savez, il y en a qui se posent tellement de questions de savoir si je suis dans la volonté de Dieu ou pas. Je trouve ça tellement aberrant. Quand Christ est en vous, et puis que vous marchez avec lui, vous faites automatiquement la volonté de Dieu. On n'a pas besoin d'avoir que ça soit écrit sur le mur.
Il y a une erreur.
Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je ne sais pas, j'ai une erreur dans mon... c'est pas grave, hein. Mais il faut savoir que la réponse à une prière n'est pas le fruit de nos propres efforts. La réponse vient uniquement parce que Jésus l'a payée par son sang. Hein, on ne mérite rien, nous. Rien du tout. Mais parce que Jésus-Christ l'a payée à la croix du calvaire. Justifié par la foi et non les œuvres méritoires. On peut lire, puisqu'on est dans plus loin, Romains, 5, verset 1. Est-on donc justifié par la foi? Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est pas beau ça? C'est merveilleux. Merci Pierre pour ton amen. C'est vrai, hein? Mais il faut dire amen. Mais oui, c'est la grâce et la miséricorde de Dieu qui apportent qu'est-ce qu'elle apporte, la grâce et la miséricorde de Dieu? Elle apporte la paix. Paix dans nos vies, paix dans nos cœurs, paix dans nos familles, paix au travail. Dieu nous donne la paix, chers amis. C'est Dieu qui la donne. Il nous donne la joie. Je suis tellement heureux d'être parmi vous ce matin, de partager la parole. On est dans la joie. Quand je vois le visage de Michel, il sourit tout le temps, mais on voit que Christ vit en lui. Il y a la joie dans son cœur. Ma sœur aussi, là. Je vous vois, il y a des sourires sur vous. C'est beau. C'est magnifique. Et le monde a besoin de voir ça. Il y a tellement de tristesse aujourd'hui. Les gens tirent une minette comme c'est pas possible. Mais parce que Christ vit en nous. Et puis qu'est-ce qu'elle apporte encore, là, la grâce? Elle apporte la prospérité, chers amis. Je suis à la retraite, j'ai jamais eu autant de travail. C'est extraordinaire. Non, mais il faut que je vous le dise. Parce que je peux juste enlever ma veste parce qu'il fait chaud. Regardez-moi. Elle amène la prospérité. J'ai plus d'employés, j'ai plus personne, je suis tout seul. C'est tellement merveilleux. Je suis avec mon Seigneur. Et vous savez, j'ai l'arthrose dans les genoux. L'arthrose dans les genoux, c'est parce que j'ai travaillé, puis j'ai toujours à genoux sur les toits, j'ai forcé et tout. J'ai un tendon d'Achille ici qui est brisé. On me l'a opéré, il a pendu, il a lâché. Je marche aujourd'hui avec un tendon d'Achille brisé. C'est pas le talon, c'est le tendon. Ben, le tendon, si vous n'avez plus de tendon ici, ben, vous n'avez plus d'équilibre, plus rien. Donc, je compense mon équilibre avec les bas pieds. Hein? Alors, bon, j'ai été voir le médecin, il m'a dit, les pronostics, on ne sait pas, ça va bien si ça sera. Mais dans mon cœur, j'ai senti, il ne fallait pas que je me fasse opérer. Chaque matin, je me mets sur le sang de Jésus, je dis, Seigneur, je te remercie pour la journée. Je pars au travail, je monte sur les toits, parce que vous laissez les toits qui sont raides, hein? Alors, vous voyez un petit peu l'archive quand elle va se tenir sur le toit. Pierre a vu dernièrement un corps que j'ai fait. Hein, il m'a vu travailler sur le toit où c'est raide. Hein. Mais le Seigneur renouvelle mes forces, mes genoux, renouvelle mes tendons. Et puis je peux vous dire que ça marche super bien la journée. Ah, c'est extraordinaire. Pourquoi, si Dieu a permis ça, vous voyez pourquoi moi, j'ai rasé dans mon cœur. C'est parce qu'il veut que je m'approche chaque matin. Il dit là que t'as besoin de moi. T'as besoin de moi. J'ai de la joie dans le cœur parce que si vous savez les douleurs que je peux avoir, hein, quand on a de l'arthrose, puis qu'on a un tendon d'Achille qui m'a coupé, puis que je vois la bonté de Dieu, la journée, toute la journée, je ne souffre pas. Je marche, je monte sur mes toits. Vous pouvez demander à ma fille, à ma femme. C'est pas la bonté de Dieu, ça. Hein? Mais parce que Dieu veut que je m'attache à lui pleinement. Dieu veut que je sois sans arrêt focalisé sur lui. C'est ce qu'aujourd'hui on a besoin dans ces temps difficiles. Dieu nous aide chaque jour. Je ne me fais aucun souci. Vous savez, moi, je vous dis franchement, ici, je suis peut-être le plus heureux des hommes. Oui. Oui. Ah, merci. Ah bon, ah, ça me fait plaisir alors. Ah, vraiment, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai, je suis heureux parce qu'on a un Dieu Tout-Puissant. Et j'aimerais vous faire... J'aimerais que cette grâce, cet amour de Jésus qu'il a pour chacun d'entre nous, c'est merveilleux. Mais il faut y croire, c'est une question de foi. Il y a des matins, je me lève et j'arrive pas à marcher, mais je dis, Seigneur, je te loue, je te bénis, parce que si tu m'as donné un travail, je vais pouvoir le faire, ce travail. Et depuis que j'ai plus d'employés, que je suis seul, que je suis à la retraite, Dieu, si vous savez ce que Dieu m'aide dans mes travaux, c'est inimaginable. Vous allez être difficile à comprendre, mais dans la fermenterie, je fais un plaquage, alors il y a des coupes à faire, il y a des trucs, des mesures qu'il faut prendre, on peut vite se tromper et tout. Mais je suis épaté moi-même, moi qui ai travaillé pendant 40 ans, mais je n'ai pas fait que, j'ai fait du bureau. Puis vers la fin, quand j'avais une trentaine d'ouvriers, je n'avais plus tellement le temps d'aller sur les toits et travailler manuellement. Mais aujourd'hui, quand je vois la grâce de Dieu sur moi, j'ai des trucs qui me viennent tout de suite, je ne me rappelle plus de certains développements, mais Dieu m'aide dans mes affaires, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Oh, j'en ai les larmes aux yeux, parce que le Seigneur est tellement bon, c'est extraordinaire, je l'aime. C'est pas possible. J'arrive bientôt au bout, hein. On va lire 1 Jean. Regardez voir ça, 1 Jean 2. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Au verset 3, et quiconque a cette espérance en lui
se purifie lui-même, chers amis. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On doit se mettre tous les jours à genoux et dire, Seigneur, je demande pardon pour ci, pour ça. Non, non, c'est la grâce de Dieu, ça. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même. Lui-même, chers amis, vous êtes tous des purifiés ce matin. Parce que Christ est en vous. Alors arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de dire, je ne suis pas ça. On se purifie quand on est en Jésus-Christ. Tout naturellement.
Mais quand on comprend ça, on a compris l'essentiel de la parole de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord? Là. Paul cherche à faire ressortir le point suivant. Vous souvenez-vous de votre salut, de sa mort pour vous. C'est cette conscience des œuvres accomplies pour vous qui donne l'assurance de la victoire dans les épreuves et dans les tribulations. Chers amis, même si on a un peu de tribulation, Dieu est avec nous. Je ne me fais aucun souci. Ils peuvent nous couper les vies, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, le gouvernement mondial. Ça m'est complètement égal. Mon gouvernement mondial, il est là-haut. Jésus-Christ. Ce Dieu tout-puissant. Et on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Dans votre communauté, vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez qu'à le louer, le bénir de tout votre cœur. Et c'est ça que Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes de foi et des enfants de foi. Aujourd'hui, il n'y a plus de foi chez les chrétiens. Il n'y a plus de foi. Hein, on est obligé de courir les réunions. Ah, il y a un prophète qui vient, mais j'espère qu'il aura une parole pour moi. Hein? Moi, je vais dans mon lieu secret, puis je dis, Seigneur, tu as quelque chose pour moi? Donne-moi la réponse. Le Seigneur me la donne. On n'a rien compris. Les chrétiens n'ont rien compris. Vous avez compris parce que vous avez un serviteur de Dieu qui vous enseigne. C'est extraordinaire. Non, mais c'est une grâce de Dieu, chers amis. C'est une grâce de Dieu. Moi, j'ai vécu 40 ans dans l'Église, mais comme je le disais, ça fait seulement 5-6 ans que j'ai compris ce qu'était l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. Hein? Les chrétiens dans les églises sont comme ça. Comment ça va? Oh, ça va. Oh, c'est difficile. Oh, j'en ai marre. Oh, si l'évangile est comme ça, moi je laisse tomber tout de suite. Hein?
Ça, c'est sûr et certain. Là. Sûr et certain. Dépendent entièrement de lui. Paul dit que si nous avons pu accepter l'amour, la grâce et le pardon de Dieu étant pécheurs, nous devrions être encore plus capables de les recevoir maintenant que nous sommes enfants de Dieu. C'est pas beau? C'est extraordinaire. Par la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée pour nous, au travers de sa chair, nous pouvons nous approcher de Dieu avec hardiesse. Nous avons la hardiesse d'entrer dans le Saint des Saints à cause de Jésus-Christ. Approchons-nous de Dieu. Et c'est ça qui est tellement important. Chaque matin, on s'approche du Seigneur et puis on remet la journée et puis Dieu est avec nous. Dieu nous conduit, Dieu nous aide. C'est quelque chose de fantastique, vous savez. Quand je vois que j'ai déménagé là parce que, ben voilà, à ma retraite, j'avais un atelier qui coûtait 4500 francs par mois. Je n'avais plus d'ouvriers. J'ai dit, Seigneur, mais comment veux-tu que je paye 4500 francs par mois? Suisse. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me trouves un atelier à 1500 francs. Je ne peux pas payer 4500. Moi, il me faut 1500 francs, ça ira très bien. Je fais deux garnitures de cheminée par mois et ça me paye mon local à 1500. Pas chez nous, une garniture de cheminée, bon, c'est différent en France, mais nous, elle est en cuivre, elle est agrafée. Tandis qu'ici, on fait des petites plaques, on les glisse sous la cuivre comme ça, c'est plus vite fait. Nous, en Suisse, on est un petit peu perfectionniste. On est d'accord, Pierre, hein? Hey. Alors, j'ai dit, Seigneur, moi, il faut que tu me trouves un local à 1500 francs. C'est pas possible, je ne peux pas continuer à payer 4500. Alors j'ai dit à ma femme, j'ai dit à mes filles, à Lynn qui est aux États-Unis, elle est en train de jeûner, j'ai dit, ben écoute Lynn, puisque tu jeûnes, demande au Seigneur qu'il me trouve un local à 1005. Ben au bout d'un mois, ma femme, elle trouve une toute petite annonce là, mais qui fait quoi, 3-4 centimètres, local à louer, dans un endroit où il y a des entreprises. Alors on fonce là-bas, Daniel me dit, viens vite, on va vite y aller, parce que vous savez, à Genève, pour trouver un local, c'est pratiquement impossible. On arrive là-bas. Oh, mais écoutez, il y a déjà beaucoup de gens qui sont dessus. Mais allez voir quand même la régie. Alors, je vais voir la régie. Je dis, écoutez, voilà, ça m'intéresse beaucoup. Puis j'ai prié. Et puis, hein, une semaine après, on me téléphone. Ben voilà, le local est à votre disposition. Dans un mois, vous pouvez le prendre. 1500 francs par mois. Mais dites au Seigneur si vous avez envie. Faut le dire. En plus de ça, moi qui... Je devais déménager tout un atelier. Vous savez, quand on est 40 ans à son compte, je vous dis qu'il y en a du boxon à déménager. Je fais venir les camions, j'avais une camionnette. Moi, j'ai un peu de la peine à porter. Tout. Si vous savez, pendant tout le temps du déménagement, il y a des gens qui se sont arrêtés avec les camions. Est-ce qu'on peut vous aider? Je vois que vous déménagez. Mais vous vous rendez compte, c'est pas merveilleux. Les gros choses, je n'avais pas apporté. Hein, mais pendant une semaine, des gens se sont arrêtés. Ils m'ont dit, allez, on vous débarrasse. On les sache, vous, j'ai pu leur donner des choses, mais toutes les grosses choses, ils ont débarrassé. Quand je vois la main de Dieu, c'est...
Vous me direz, c'est des petites choses, mais pour moi, c'est des grandes choses.
Mais il faut y croire tout son cœur. Je vous dis, ça a été ce déménagement, c'était quelque chose de merveilleux. Maintenant, je suis dans mon atelier, alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'avant, j'avais de la peine à parquer, parce que les parkings, je chopais entre 500 et 1000 francs d'amende par année. On venait me mettre de la colle dans la serrure, parce qu'en dessus, c'était des habitations, et puis les gens rouspétaient. Là-bas, je suis tout seul parmi trois carrossiers. Ils ont dit, on espère que ce ne sera pas un carrossier qui va venir, parce que ça fera de la concurrence, mais c'est un ferblantier qui est là. Je suis accueilli par ces gars-là, ce ne sont pas des chrétiens, les bras ouverts. Chaque jour à 4h30, maintenant c'est l'heure de manger la glace. Il y a un petit pénis à côté avec un petit restaurant. À 4h, il m'invite à manger la glace. Il me paye à manger. Il y a un contact. Et en plus de ça, j'ai des parkings comme je veux. Devant, il y a un immense champ avec des soleils. Le paysan plante des soleils. C'est merveilleux. Oh là là.
Ah, quel privilège on a de... Alors, chers amis, la vraie nature de Dieu, c'est quelque chose de beau de le connaître. Et puis, il faut le voir au travers ce qu'a fait Jésus. C'est ça qui est important. Hein? Et puis, Dieu nous voit au travers de Jésus. C'est ce qui est extraordinaire. Quand j'ai réalisé ça, Dieu ne vous voit pas avec vos erreurs, vos fautes. Il vous voit au travers de Jésus, de ce qu'il a accompli à la croix du calvaire. Il nous voit beau, transformé. La vraie nature de Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Savez-vous que ce privilège, c'est le nôtre. Et c'est ainsi que Dieu voit les choses. Il nous voit au travers de Jésus-Christ. Le diable ne peut tromper celui qui connaît vraiment Dieu et qui a une relation intime avec lui. Satan ne peut pas nous tromper. Il ne peut pas. Dans 2 Pierre 1, 3, il est dit que c'est au travers de sa connaissance que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Chers amis, ne quittez jamais sa présence. Jamais ne quittez sa présence. Il est possible de vivre dans une telle intimité avec Dieu. C'est le style de vie que Dieu veut pour son peuple et pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'il faut. Je vous invite ce matin à vous présenter avec hardiesse devant le trône de sa grâce pour obtenir miséricorde. Et aide dans vos besoins, chers amis. Présentez-vous avec hardiesse. Et Dieu connaît vos besoins. Dieu va intervenir dans vos besoins. Non seulement quand tout va bien, mais aussi quand vous avez péché et que vous êtes au milieu des problèmes. C'est là que Dieu intervient. Chers amis, c'est le trône de la grâce. Non le trône des œuvres ou des accomplissements parfaits. Non, on n'est pas capable de nous rendre les choses parfaites. C'est Dieu, au travers de Jésus-Christ, qui les rend parfaites. Approchez-vous de son trône et laissez-vous aimer. Laissez-nous aimer par le Seigneur. Vous savez, on a de la peine des fois à se laisser aimer, mais Dieu veut qu'on se laisse aimer par lui parce qu'il a tout accompli. Et puis, il veut faire de nous des créatures selon son modèle. Il veut faire des créatures qu'il aime jusqu'au bout, jusqu'à l'enlèvement, chers amis. Et même si les nuages s'assombrissent sur notre monde, nous n'avons rien à craindre parce que Christ a tout accompli sur la croix du calvaire. Et ça réjouit tellement mon cœur. Vous serez libérés et vous jouirez d'une communion totalement satisfaisante en Dieu. C'est ça qu'on veut. C'est ce que je vis. Chers amis, ce que je viens de vous apporter, c'est du vécu. Je pourrais vous donner des témoignages en veux-tu, en voilà. L'autre jour, ma femme revient des États-Unis parce qu'elle allait voir ma fille. Et moi, j'ai été la voir. Elle est restée que 2 semaines de plus. Je me dépêche. J'étais en retard à l'aéroport et tout. J'arrive. Quand on rentre à la maison, plus de trousseau de clés. Je ne retrouvais plus mon trousseau de clés. J'ai des clés qui valent cher, j'ai des clés ici qui valent 2000 francs. Et pour moi, mon trousseau de clés, c'est important. Pour tout le monde, c'est important. Et pendant 4 jours, je n'ai pas retrouvé mon trousseau de clés. J'ai dit, Seigneur, tu es en moi. Tu vois où il est ce trousseau de clés. Hein? Moi, je ne le vois pas, mais toi, tu le vois. Et tu sais que j'en ai besoin. Donc, je ne me fais pas de soucis. Pendant un jour et demi, je me suis fait du souci. Après, j'ai dit, Seigneur, c'est ton problème. Parce que tu es en moi. Tu vois exactement. Et puis tu vois, tu sais où est ce trousseau de clés. Moi, je ne sais pas où il est. Je l'ai perdu. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et je peux vous dire que la nuit, ça a travaillé. Hein. J'ai passé ici, j'ai passé là, ouais, machin. Est-ce que, ouais. Tout y a passé. Puis au bout de 4 jours, je suis dans mon atelier. Puis là, il y a des sacs et tout. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mes regards sont focalisés sur un sac. Et puis, qu'est-ce que je vois? Mon trousseau de clés.
Ça vous paraît peu de choses, banal. Mais j'y ai fait confiance au Seigneur. Le Seigneur m'a dit, ben moi je vais t'amener vers tout ce qui. Mais mes yeux, bon, vous ne pouvez pas savoir. Je suis presque tombé par terre. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Seigneur, t'es extraordinaire. C'est tellement beau, mais vous vous rendez compte, pour chacun d'entre nous, il est là, il nous aide dans nos difficultés. Mais il faut y croire de tout son cœur. Il faut y croire, chers amis. Et puis je peux vous dire, n'ayez aucune crainte dans vos cœurs dans ce qui sont, pour ce qui s'en vient dans ce monde. Parce que Dieu a tout accompli. Nous sommes fils et filles de rois. Nous sommes sous la grâce et pas sous la loi. Je peux vous le répéter 10 fois, nous sommes sous la grâce. Dieu a tout accompli à la croix du calvaire. Il a payé la dette, il a payé la facture. C'est ça qui est beau. On vit sous la grâce de Dieu. Alors voilà, j'en ai fini. Hein. Mais vous savez, ça bouillonne tellement dans mon cœur. J'ai tellement de choses à dire. Mais... Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les églises, ils ne vivent pas ça, chers amis. Ils se font du souci, ils ont peur pour leur compte en banque. Hein? On voit que la dette, tout s'effondre, mais ils ont peur. Mais il n'y a pas de souci. Moi, je ne me fais aucun souci. Alors, je vous dis franchement, hein, ils peuvent venir tout prendre chez moi. Mais ils ne peuvent pas me prendre l'amour de Jésus-Christ et de ce qu'il a accompli sur la croix du calvaire pour moi. Ça, ils ne peuvent pas. Vous savez, quand j'ai fait faillite, que j'ai tout perdu, je me suis retrouvé attaché à un poteau dans l'univers. Puis le Seigneur m'a dit, le poteau, c'est moi. Tu n'as rien à craindre. Et depuis ce jour-là, je n'ai manqué de rien. J'ai retrouvé mon... J'avais fait faillite, ça aussi, je ne vous ai pas raconté. Hein. Comme on m'a volé, on ne m'a pas payé 2 millions de francs, forcément qu'il y a un tas de choses qui se sont greffées. Puis on m'a fait faillite. Puis quand j'ai été chez le juge, c'était après un camp militaire avec Michel Allard. On avait prié, loué le Seigneur de tout son cœur. J'arrive le lundi matin, lettre dans la boîte aux lettres, convoqué chez le juge. Il dit, monsieur Lamont, alors qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? On ne m'a pas payé ça. Ah, je vois que ce n'est pas une faillite frauduleuse. Il m'a dit, monsieur Lamont, je vous donne 3 jours. 3 jours. Parce que dans 3 jours, je dois mettre les scellés dans votre entreprise. Je vous donne 3 jours pour tout débarrasser.
Tout.
J'avais une plieuse qui fait 4 tonnes. Un atelier qui pèse 1500 kilos. Puis on avait dû rentrer la plieuse parce qu'elle fait 6 mètres de long par les vitrages. Il a fallu enlever les vitrages de l'immeuble pour la rentrer. En 3 jours, j'ai trouvé un atelier. J'ai trouvé une grue mobile pour sortir ma plieuse. J'ai pu tout débarrasser. Le mercredi soir, c'était tout dans l'atelier que Dieu m'a trouvé. J'ai trouvé un atelier en 3 jours. Hein. 3 jours, chers amis. Vous imaginez ce que c'est, ça? En 3 jours, débarrasser une entreprise. Mes ouvriers n'ont pas su que j'avais fait... J'avais encore 5-6 ouvriers, ils n'ont pas su que j'avais fait faillite. Je suis arrivé, j'ai dit, madame, j'ai tourné la clé, j'ai dit, écoutez, on a changé d'atelier. Et puis le pitch, voilà, Dieu m'a donné du travail, Dieu m'a béni dans mes affaires. J'ai perdu ma maison, j'ai tout perdu, mais ça, c'est complètement égal. Aujourd'hui, Dieu m'a tout donné. J'ai la vie éternelle, je vis sous la grâce et non sous la loi. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble. Seigneur, je te loue ce matin. Un Dieu tellement merveilleux, Seigneur. Mon cœur est tellement touché de voir combien tu es bon envers nous, Seigneur, combien tu es bon envers moi. Tu étais tellement bon envers Pierre aussi, Seigneur, dans tout ce qu'il a vécu. Dans cette communauté, Seigneur, on veut te louer ce matin, parce que tu mérites la reconnaissance de nos cœurs. Je te bénis de tout mon cœur. Je te demande de bénir mes frères et sœurs. Seigneur, qu'ils puissent rentrer avec hardiesse, Seigneur, dans ce temps de grâce, Seigneur, dans cette grâce si merveilleuse où tu as tout accompli sur la croix du calvaire. Et ce matin, Seigneur, moi, avec mes frères et sœurs, je m'avance devant toi, Seigneur. Je veux prendre ta main parce que c'est ta main de la victoire, Seigneur. Et malgré tout ce qui peut arriver sur l'autre monde, Seigneur, tu es là au milieu de nous. Je te demande de bénir cette communauté. Je te demande de bénir Michel, Seigneur. La louange, les instruments, tout ce qui se fait dans cette communauté, c'est un exemple, Seigneur. Là, je te demande de les bénir. Et que la puissance de ton Saint-Esprit descendent sur cette communauté afin qu'ils puissent témoigner de toi partout où ils sont, dans leur travail, Seigneur, là où tu les as placés, Seigneur. Et je te loue, je te rends grâce ce matin pour la joie d'être ensemble et pour l'amour que tu mets dans nos cœurs, dans le puissant nom de Jésus. Et les frères et sœurs disent Amen. Amen. Amen.
Jésus-Christ. Nous sommes sous une autre connaissance. C'est ce qu'il s'est vertu à nous dire ce matin. Nous sommes sous une autre connaissance. Quand on est toujours en train de... Voilà pourquoi un chrétien ne juge pas. Parce qu'on juge par rapport au bien ou au mal. Mais quand on est chrétien, Jésus dit, je ne juge pas. parce qu'on est sous la connaissance de Dieu, si on sait que c'est Dieu qui tient tout, comme tu nous as tellement bien dit, Arthur, ben, à ce moment-là, comme tu dis, on n'a pas de souci. Parce que ce qu'on peut appeler mal, c'est pas mal. C'est pas forcément mal. Puisque c'est Dieu qui tient tout. Et puis qu'on est avec lui. On n'a rien à craindre. Et ça, c'est parce qu'on a la connaissance de Dieu. Plus on a cette connaissance. Et j'ai bien aimé quand tu dis avec hardiesse. Quand tu parlais comme ça, il me semblait que Dieu disait ah, si. Quand je rentre dans la salle du trône, j'ai prêché à mes frères ça. Imaginez cette salle du trône avec le trône au fond, les colonnes de marbre, d'or et tout. Pour moi, la salle du trône, elle est très kitsch parce que j'aime bien ce qui brille. Quand je rentre là-dedans, mais je vois, c'est magnifique. Et quand je rentre, je suis sûr, Dieu dit, ah, ça, j'aime bien quand il vient, lui, parce que il pose des questions. Moi, je pose même des questions. Je dis, mais pourquoi? Je comprends pas. Tous, ils sont là. Non, et Dieu, il aime quand on m'aime, on conteste. Quand on dit, mais je comprends pas. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Dieu, je te fais confiance, parce que quand même, je veux bien comprendre un petit peu aussi. Mais quand on a cette relation avec Dieu, mais il nous explique. Je suis tellement d'accord avec toi. Quand il nous dit, tous les gens qui courent partout pour écouter les prophètes, c'est obligé que ces gens-là se moquent d'eux, ils abusent d'eux avec leurs soi-disant dons de machin là. Il y en a des vrais prophètes, mais il y a beaucoup plus de faux. Mais Dieu nous parle à nous. Mais je suis tellement d'accord avec ce que tu as dit ce matin. Dieu nous parle à nous-mêmes personnellement. On a des oreilles pour entendre. Ce qui est triste, c'est qu'il n'y en a pas toujours le cerveau qui suit derrière. Il faut étudier les choses de Dieu, étudier les choses de Dieu, étudier son caractère. Comme, oh frère, j'ai tellement aimé ce que tu as dit. Sois béni pour ce que tu nous as dit ce matin. Vraiment, amen, amen, amen. C'est amen. Vraiment, j'aime ça. Qu'est-ce qu'on chante alors?
Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermi nos pas, armé de lumière, couronné d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Allez. Jésus règne en moi, proclamons sa grâce au creux de la nuit, recherchons sa face au cœur de sa vie. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus règne en moi. Viens Jésus règne en moi.
Des anges qui nous regardent vis-à-vis des esprits inférieurs aussi, j'aimerais porter un témoignage et une preuve de foi de ma part. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu ému. Donc j'aurais voulu être un artiste. Mais bon, Dieu a mis en moi un désir plus fort que celui d'être artiste, c'est d'être son disciple et d'obéir à sa parole. Pour ceux qui ne savaient pas, moi j'ai toujours vécu dans la communauté, j'étais présent, mais mes parents et la communauté m'ont jamais forcé à faire mes choix, je les ai fait tout seul. Et donc j'étais parti à Paris pour une formation de théâtre et de musique. Et donc, voyant cela, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Mais disons que par rapport à la parole de Dieu, je voyais que ce que je vivais n'était pas totalement conforme à sa parole. Donc je vais démontrer ça par la parole de Dieu. Donc je m'appliquais à garder les commandements de Dieu sur Paris, mais je m'aperçus que ce n'était pas suffisant. Matthieu 19, 17 à 22. Si tu veux entrer dans la vie, donc dans la vie éternelle, observe les commandements. Donc c'est Jésus qui parle. Lesquels, lui dit-il, donc le jeune homme riche. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, donc moi aussi, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Dieu a également mis sur mon chemin des avertissements, afin d'éveiller ma saine intelligence pour que je me souvienne des choses annoncées d'avance par les prophètes. 2 Pierre 3, 1, 2. Avertissements qui ont été pour moi. Donc, excusez-moi. Ésaïe 5. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Donc j'étais autour de gens qui vivaient comme ça, de personnes. Qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Qui justifient le coupable pour un présent, et enlève aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture. Matthieu 25, 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Luc 21, 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes, des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Donc ces semences quotidiennes de ces avertissements aussi dans ma vie, par les prédications de Michel, par les enseignements aussi de Pierre Gilbert, m'ont fait réaliser que dans mon cœur, que si je voulais vraiment suivre la parole correctement, il fallait que je l'applique à la lettre. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est Luc 14, 33, donc un commandement de Dieu. Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc, si je n'appliquais pas ce commandement, je n'étais pas entièrement au service de Dieu. Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc si je ne servais pas totalement Dieu, je servais Mammon, pour moi, dans mon cœur. Cela peut sembler sévère et dur, mais la parole de Dieu est une épée à double tranchant. C'est également, la parole de Dieu, une source de joie et de bénédiction. Psaume 133, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la vie et la bénédiction. C'est pourquoi je me repens et je viens vers vous. Je veux rallier mon cœur à celui de mes pères. Malachie. Malachie 4, 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc voilà, je suis très heureux de vivre et de venir avec vous en communauté.